commence une série de 5 cours dans lesquels on va intervenir tous les 3. Et l'ambition qu'on avait pendant ces cours, c'était d'essayer d'expliquer un petit peu des choses que vous connaissez sans doute au moins dont vous avez entendu parler, sans doute, qui pose des questions éthiques, mais dont on n'a pas toujours tous les outils pour juger si, effectivement, on peut avoir, pour se faire une opinion. Donc on va essayer de parler un peu de science, de biologie, de génome, et puis un peu plus tard, des questions éthiques qui se posent, et on espère que pendant les cours qu'on va donner, vous pourrez acquérir certaines des connaissances qui permettent de se faire une bonne idée de ces questions éthiques. Donc ça, c'est des mots qui me sont venus comme ça, qu'on entend tout le temps, un peu partout dans la presse. Tu aurais pu rajouter pommes de terre transgéniques, peut-être qu'on est arrivé ça, la radio aujourd'hui, c'est un gros truc. Mutants, résistance aux antibiotiques, clonage, clone, virus, OGM, gènes, bactéries, ADN, génome, manipulation génétique. Donc, là aujourd'hui, j'ai préparé un cours qui va vraiment partir de la base, et normalement, tout le monde devrait être capable de comprendre. Si vous ne comprenez pas, il ne faut surtout pas hésiter à m'interpeller, à m'arrêter. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit quelque chose au maximum interactif, et donc on peut tout à fait s'arrêter en plein milieu et discuter des concepts. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc pour commencer, en fait, je me suis dit que j'allais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que ces choses-là? Vous avez peut-être déjà vu ce type de représentation. Non, non. Donc c'est les chromosomes. Alors en fait, ça représente le jeu de chromosomes de 3 espèces différentes. On appelle ça un karyotype, en fait. C'est des noms techniques qui ne sont pas forcément très intéressants, mais... ici, on a, vous avez 3 carrés, hein, et dedans, vous voyez des chromosomes. Alors, les petits bâtonnets, c'est des chromosomes. Et là, on a 3 espèces. On a une espèce, là, en haut à gauche, qui est Homo sapiens. Ici, on a une autre espèce qui s'appelle Mus musculus, qui est la souris que vous avez peut-être... dans votre appartement, dans votre maison. Et en bas, c'est un karyotype de chien. Alors vous voyez, ces chromosomes sont rangés. Alors c'est pas comme ça qu'on les obtient. Quand on les prend en photo, ils sont pas rangés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les trier par taille et puis ensuite on va les ranger. Ils ont un numéro qui correspond à leur taille. Vous voyez qu'ils sont rangés du plus grand jusqu'au plus petit. Et chez l'homme, on en voit 22. Vous voyez que ça va de 1 à 22. Et puis il y a une autre paire qui n'est pas numérotée, elle, qui est X et Y. Alors ça, vous savez sans doute que c'est que X et Y. C'est les chromosomes les plus médiatiques. Quand on présente le génome comme ça d'une espèce, on présente le X et le Y. On ne présente pas un génome de femelle, X et X, parce qu'il manquerait quelque chose. Il manquerait donc le Y. Donc là, ça ressemble à un génome de mâle. Mais bon, en fait, on dit que c'est le génome qui représente l'espèce, un karyotype typique de l'espèce. Alors, chez la souris, vous avez que 19 paires de chromosomes. Et chez le chien, vous en avez 38. Vous pouvez voir que c'est peut-être voulez vous gonfler d'orgueil en voyant que vous aviez plus de chromosomes que la souris, mais vous n'en avez pas plus qu'un chien. Alors, qu'est-ce que c'est un chromosome? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chromosome? Donc, c'est des petits bâtonnets colorés, là, ou noir et blanc. Pardon? C'est de l'ADN. Alors, il y a de l'ADN dans les chromosomes. Dans les chromosomes, peut-être que j'ai représenté, il y a effectivement de l'ADN. Et c'est vrai que l'ADN, c'est la chose qui paraît la plus importante dans les chromosomes. Il n'y a pas que ça, en fait. Alors, vous avez mis une échelle de taille, hein, juste. Donc, vous voyez l'échelle, là, il y a un petit bâtonnet qui fait 5 micromètres, pour vous donner une idée de l'échelle. Alors, un micromètre, c'est un millionième de mètre. Donc, c'est assez petit, il faut avoir déjà un bon microscope pour voir. Donc, en fait, les chromosomes que je vous montrais, hein, c'est ça, c'est ce qu'on a en bas. Alors vous voyez, quand on grossit un petit peu, on augmente un peu le grossissement, on voit que c'est un petit peu plus fouillis. Alors après, si on décompose cette vision, on voit qu'en fait, ces petits bâtonnets là, c'est en fait des filaments qui sont empaquetés de manière très condensée. Et ils sont impactés à plusieurs niveaux. Alors, on peut changer un pointeur en fait, c'est pas grave. On peut repartir de tout en haut en fait. Donc, en haut, vous voyez une espèce de molécule en hélice là. Et ça, effectivement, c'est l'ADN. Vous voyez que cet ADN, en fait, il est enroulé autour d'une petite bille. Alors, ces billes, c'est des protéines qu'on appelle des histones. Et ces petites billes elles-mêmes, elles se condensent. Alors, vous voyez qu'on commence à peine à voir l'ADN après, quand on est au troisième niveau, là. Et puis ensuite, les filaments qu'on est capable d'observer, là, c'est plus du tout l'ADN, c'est essentiellement les protéines, c'est essentiellement les bâtonnets de protéines qu'on est en train de dire. Donc vous voyez que c'est de l'ADN, effectivement, mais c'est de l'ADN qui est sous une forme très condensée quand on l'observe à ce stade. Alors en fait, il faut dire que cette vision-là, c'est une vision des chromosomes, donc de notre génome en fait. Notre génome, c'est l'ensemble de ces chromosomes, qui dépend beaucoup du moment où on regarde. C'est-à-dire que dans la vie d'une cellule, vous allez pouvoir voir ces chromosomes à un moment très spécifique, mais le reste du temps, ils vont être complètement décondensés, ou au moins partiellement décondensés, sous une forme qui va être beaucoup plus propice à leur fonction. On va revenir un peu là-dessus. Donc effectivement, c'est de l'ADN, essentiellement, et c'est la molécule qui est... la plus intéressante, même si les autres sont intéressantes, mais la plus intéressante dans ces chromosomes. Alors, ces deux mecs là, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, c'est James Watson et Francis Crick. Alors, à l'époque où ils ont mis en évidence la structure de l'ADN. À l'époque, on savait déjà un petit peu ce que c'était que l'ADN. On savait grosso modo de quels atomes et de quelles petites molécules c'était constitué, mais on n'avait pas vraiment idée de sa véritable structure. Et vous allez voir que sa structure, c'est quelque chose qui est vraiment clé pour comprendre à la fois sa fonction et son importance. Alors là, à cette époque-là, Watson, c'est un gamin, il a 23 ans. Il a déjà sa thèse, en fait. Crick, c'est encore un étudiant, il a 35 ans. Mais c'est pas moins un génie pour ça. Et donc, ces deux garçons-là qui ont mis en évidence la structure de l'ADN. Bon, il y a toute une histoire là-dessus que je ne vais pas vous raconter. C'est toute une épopée, l'histoire de cette découverte. Mais je ne vais pas la raconter, je pense. Si, vous voulez ? Non, non. On va plus aller. Enfin, on pourra en discuter un petit peu parce que bon, c'est une histoire un petit peu controversée. Il y a une photo qui manque là, au moins une photo qui manque. C'est la photo d'une femme qui avait découvert, qui s'appelle Rosalind Franklin, qui avait découvert, par des images de cristallographie, découvert que l'ADN devait avoir une forme d'hélice, même si elle n'avait pas résolu complètement la manière dont cette hélice était organisée. Et en fait, Watson écrit qu'on bénéficiait de ces résultats via son chef, en fait, via le chef de cette femme. Et donc, souvent, on considère que ce résultat lui a été un petit peu usurpé, cette femme. Et que au moins son chef a un peu abusé de sa confiance. Alors, ça c'est trois manières de représenter l'ADN de manière schématique. Elles sont toutes de manière schématique. Celle du milieu est celle qui est censée ressembler plus à du vrai ADN. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, donc l'ADN, là, c'est cette chose-là qui est tout en haut, à droite, ça, c'est une image du microscope électronique. Ça, c'est ce qu'on est capable de voir, en fait. On a beaucoup de difficultés à avoir des grossissements supérieurs à ça. À partir de ces images-là, c'est très difficile de résoudre cette structure juste avec des technologies de microscopie. Donc, l'ADN ressemble à ça. C'est en fait deux brins qui sont enroulés l'un sur l'autre. Sur lesquels se trouvent des petites molécules qu'on appelle des bases et qui sont notées avec les lettres A, T, C et G. Ça, c'est sûr que vous avez déjà entendu ça. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces bases, elles ont une affinité en fait. La base A a une affinité pour la base T. Et la base C a une affinité pour la base G. Vous voyez des petits pointillés qui sont mis entre ces bases, ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. En fait, c'est une liaison qui n'est pas vraiment solide, en fait, qui est assez labile, qui est assez facile à casser, mais qui permet à ces bases de s'associer de manière relativement stable. Et quand on en a plusieurs comme ça le long de la molécule, on obtient en fait une double hélice. Donc ces deux brins enroulés l'un dans l'autre qui sont relativement stables. Alors cette complémentarité de A contre T et de C contre G,
ça c'est une des particularités qui a mis la puce à l'oreille de Watson et Crick.
C'est-à-dire qu'une chose qu'on savait avant de résoudre la structure de l'ADN, c'était qu'à l'intérieur de l'ADN, il y avait autant de A que de T, exactement la même quantité de A que de T, et exactement la même quantité de C que de G. Par contre, il n'y avait pas la même quantité de A que de C, ou de A que de G. Il y avait cette règle de parité qu'on appelle le ratio de Chargaff, peu importe. Mais c'est ça qui a mis la puce à l'oreille des Watson et Crick et qui leur a permis de résoudre cette structure et de comprendre qu'en fait
on avait deux brins qui étaient enroulés en hélice et donc qui s'appariaient au niveau de base très, très spécifique.
Là, je vais sauter. En fait, j'aurais pu continuer à parler de la structure.
Ce qu'on va dire, qui est particulièrement important pour l'ADN, c'est que cette propriété structurale que je vous ai décrite là, elle lui permet de se répliquer. Et ça, c'est particulièrement important parce que l'ADN, c'est quelque chose pour lequel c'est très important de se répliquer. Donc ça, là, vous avez une espèce d'image très très simplifiée de ce que c'est que le développement d'un être humain. Comme vous savez tout à fait certainement que vous êtes issu de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Alors, au passage, vous voyez que j'ai écrit N égale 23 sous spermatozoïde et N égale 23 sous ovule. Donc ça, c'était, si vous vous rappelez un peu dans le karyotype qu'on a vu au début, c'était le nombre de chromosomes qu'on avait. Ce qui se passe dans cet œuf fertilisé, c'est que là, on a 46 chromosomes. Mais en fait, on a 23 paires de chromosomes, c'était ce qui était représenté tout au début. Vous voyez qu'à chaque fois, on a deux bâtonnets de chacun de ces chromosomes. Donc, dans votre génome, vous avez deux fois la même information, entre guillemets. Mais cette information, elle n'est pas tout à fait la même, parce qu'en fait, à chaque fois, pour chacun de ces chromosomes, il y a une copie qui vient de votre père, et il y a une copie qui vient de votre mère. Bon, peu importe. En tout cas, vous avez un génome dans lequel vous avez 46 chromosomes. Et au cours du développement, ce qui se passe, c'est que cet œuf qui contient l'ADN de vos parents se divise d'abord en 2, puis en 4, puis en 8, etc. Jusqu'à former un petit organisme comme ça. Et ce que ça signifie, ça, c'est que chacune des cellules de cet organisme, elle va contenir, elle va descendre de cet œuf, et elle va contenir exactement la même information génétique que cet œuf. Elle va contenir exactement l'information de l'ADN de cet œuf. Alors ça, au passage, c'est un des mots que j'ai écrit tout à l'heure. Ça, on appelle ça un clone. Deux cellules, deux organismes, deux cellules, peu importe, qui contiennent, qui ont exactement le même génome, c'est ce qu'on appelle un clone. Donc en fait, un organisme, c'est un clone de la cellule œuf de ses parents, c'est-à-dire enfin de la cellule œuf dont il est issu. D'accord ? Vous êtes en fait un clone de cellules. On peut considérer ça comme ça. Toutes vos cellules ont exactement la même information génétique. Donc, juste pour rester un peu dans enfin pour dire quelques généralités là-dessus, dans un corps humain, on estime qu'il y a environ 100 milliards de cellules. Donc, chacune de ces cellules contient 46 chromosomes. En fait, le génome humain, on estime qu'il fait à peu près, qu'il est long d'à peu près 3 milliards de ces bases. Il y a un peu plus de 3 milliards de ces lettres dans le génome humain. Alors, si vous faites la multiplication de 3 milliards par 0,34 nanomètres, pour savoir un peu quelle est la longueur de votre génome, ça fait à peu près 2 mètres. Donc si vous étiez capable de dérouler ce tout petit filament qui fait à peine 2 nanomètres de diamètre d'une de vos cellules, vous obtiendrez 2 mètres de filament. Ça, c'est dans chacune des cellules. Ça veut dire que dans les 100 milliards de cellules qui constituent votre corps, il y a en fait suffisamment d'ADN pour faire la distance jusqu'au Soleil, de la Terre au Soleil. Il y a même suffisamment pour revenir. Vous pouvez commencer à revenir, vous pouvez peut-être même faire aller-retour. En fait, vous devriez être capable de faire aller-retour.
Donc voilà, c'est pour vous dire,
juste pour enfoncer le clou, sur le fait que chacune des cellules de votre corps contient l'ensemble de cette information génétique. Alors, c'est 3 milliards de lettres, en fait. Donc, schématiquement, on représente comme ça. Voilà, 3 milliards de lettres. Donc, on voit que c'est particulièrement important pour l'ADN de s'appliquer à l'identique, parce que il faut que chacune des cellules conserve l'information génétique. Donc ici, ça c'est un petit dessin qui explique comment l'ADN se réfléchit. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais là c'est une manière un petit peu simple de voir ça. L'ADN commence par... on a donc deux brins, et ces deux brins commencent par se séparer. Et du fait de la complémentarité des bases, vous savez que en face d'un G, vous allez toujours venir même passer, et en face d'un A, vous allez toujours venir même passer. C'est aussi simple que ça. Alors vous voyez que, en fait, ces brins-là, ils sont, on dit, antiparallèles. C'est-à-dire qu'il y en a un pour lequel la synthèse se fait dans ce sens-là. Ici, le C a été accroché, puis le T, puis ensuite, on va venir ajouter le A, le G et le T. Et dans l'autre sens, en fait, enfin sur l'autre brin, la synthèse va aller se faire dans l'autre sens. Donc on va commencer par mettre le A, puis le C, puis le T, puis le A, puis le G. Donc ça se fait à chaque division cellulaire, à chaque fois qu'une de vos cellules se multiplie, se divise en deux. Ça se fait tous les jours, quand vous vous égratignez, que votre tissu se régénère, vous avez des divisions cellulaires comme ça qui vont venir recopier votre ADN. Et leur copier à l'identique comme ça. Donc ici, vous avez obtenu, à partir d'un brin d'ADN, vous avez obtenu deux brins d'ADN identiques. Ça, c'est une autre vision d'un petit peu plus réaliste, parce qu'on voit la double hélice d'ADN de cette réplication. À la fin, ces deux brins, une fois qu'ils vont être complètement synthétisés, vont se séparer, ils vont aller se mettre dans deux cellules différentes, et vous allez obtenir deux cellules qui sont clones. Je me rappelle expliquer ça à un copain musicien qui n'a pas fait des études de biologie avec moi, qui m'a quitté à un moment donné, pendant nos études, et puis on était à une exposition et on regardait une hélice d'ADN. Et donc, je lui parlais de ça. Et donc, à un moment, il me dit il a fallu qu'on fasse des progrès énormes en microscopie pour être capable de lire ces séquences. Et en fait, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir du tout avec la microscopie, ce qu'on fait, quand on séquence de l'ADN. Donc vous savez qu'on est capable de séquencer de l'ADN, qu'on est capable de séquencer des génomes. Vous savez que on a par exemple la séquence du génome humain. On pourra rediscuter un tout petit peu tout à l'heure de ce que ça veut dire exactement, ce qu'on entend par là. Mais en fait, cet ADN, on l'observe à peine. Vous voyez, il est à peine visible avec des grossissements énormes au microscope. Alors, la manière dont on fait pour séquencer l'ADN, je pensais que c'était intéressant de l'expliquer ici, c'est qu'on utilise justement cette capacité qu'il a à se répliquer. Donc,
titularisé. Dans un titularisé, vous pouvez isoler l'ADN d'un individu, d'une bactérie, d'un virus, de ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre avec la petite soupe qui va lui permettre de se répliquer. Alors ça, on est capable de le faire. On connaît les molécules dont il a besoin pour se répliquer. Alors notamment, il a besoin des bases A, C, T et G. Donc ici, elles sont notées DTTTP, DTTP, DGTP. Mais en fait, c'est ces bases-là, avec un G, un C, un A ou un T. Donc ça, c'est ce qui va lui permettre de s'allonger. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on y met des petites bases qui sont quasiment identiques, mais qui ont deux particularités. Une première, c'est qu'elles sont marquées par un composé fluorescent, un composé qui va réagir à la lumière, et pour chacune de ces bases, on va avoir une couleur différente. Et la deuxième particularité de ces bases, c'est qu'elles vont bloquer, une fois qu'elles vont avoir été incorporées dans l'ADN, elles vont bloquer la réplication. Ce ne sera plus possible de rajouter une base à l'ADN. Alors imaginez, vous mettez tout ça dans le cul, et puis vous laissez la réplication se faire. Ce qui va se passer, c'est que à partir de là, on va ajouter des bases, et puis de temps en temps, on va ajouter donc soit une base qui permet de continuer la réplication, soit de temps en temps une base qui l'arrive. Ce qui fait que globalement, si on fait de nombreux cycles, si on fait de nombreuses réplications de cet ADN, vous allez avoir des fragments de toutes les tailles possibles selon le moment où la base qui arrête la réplication va s'être incorporée. Une fois que vous avez ça, en fait, c'est simple comme bonjour. On a des manières de faire migrer ces fragments d'ADN sur des colonnes de manière à ce qu'ils migrent d'autant plus vite qu'ils sont courts. Et donc, vous allez avoir des fragments qui vont migrer de manière proportionnelle à leur taille. Et là, vous mettez quelque chose qui va envoyer de la lumière et qui va réagir avec les marqueurs fluorescents qui sont accrochés à ces fragments d'ADN. Et donc, à chaque fois que vous lisez un fragment d'ADN d'une taille donnée, vous allez avoir un signal pour A, pour C, pour T, pour G. Et comme ils sont tous d'une longueur différente, si vous avez bien fait votre manip, vous allez avoir, pour toutes les tailles données, un pic. Et ça, ça va correspondre à la séquence que vous avez en dessous. C'était juste pour essayer de montrer un peu l'ingéniosité, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, je ne pense pas, des méthodes qu'on a pour voir l'ADN, pour déduire quelle est l'information génétique qu'il y a dans un organisme. Donc ça, c'est des méthodes de biologie moléculaire. En fait, elles sont souvent très proches de ça, enfin très, très semblables à ça, la plupart des méthodes qu'on applique. Oui.
Et depuis quand vous savez faire ça, disons, facilement?
Alors, on y reviendra un tout petit peu, mais depuis les années 70, en fait, on est, enfin 60-70, on est capable de faire ça. Et alors, le faire facilement, on va revenir un petit peu là-dessus, et je vais vous montrer un tout petit peu comment ces méthodes se sont perfectionnées, sans vous donner de détails techniques, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on est capable de faire ça très très vite et pour très peu cher. Mais donc ça correspond. Enfin, l'invention de cette technique, en fait, c'est Sanger qui a inventé cette technique et il a eu le prix Nobel pour ça dans les années 70. Sanger, c'est un type qui a eu deux prix Nobel. Pas deux, hein, pas plus. Ben, il a eu au moins deux prix Nobel pour deux méthodes de séquençage, une des protéines et une
de la DS. Donc je disais, en fait, souvent, la biologie moléculaire, c'est des techniques comme ça, de bricolage un peu, avec les outils que nous fournissent les organismes, parce que, en fait, cette DNA polymérase, là, qu'on a mis dans la petite soupe pour faire la réplication, ça c'est en fait une enzyme, une protéine qui existe chez Escherichia coli, en fait, chez un organisme vivant, et on sait la purifier, on sait la retirer, on sait la réutiliser. Et donc la plupart des outils qu'on a en biologie moléculaire, c'est des outils qu'on a appliqués à des organismes vivants et pour lesquels dont on utilise les propriétés fantastiques. On a parlé beaucoup d'ADN, mais alors pourquoi on s'intéresse tellement à l'ADN ? Pourquoi ça sert l'ADN finalement ? Pourquoi c'est important de le recopier à l'identique ? Pourquoi la réponse, c'est parce que, en fait, c'est lui le support de l'hérédité. C'est lui la mémoire de la cellule. C'est lui la mémoire des cellules. C'est lui la mémoire de l'évolution. C'est lui qui fait que vous avez des points communs avec les chimpanzés, les poissons, les champignons, les plantes, les bactéries. C'est lui aussi qui fait que vous ressemblez à vos parents et puis à votre petit frère ou votre petite sœur, que vos enfants vous ressemblent. Ça, c'était pas totalement évident de le deviner au départ. C'est-à-dire que on savait qu'il y avait tout un tas de choses qui étaient transmises d'une génération à l'autre. Ça incluait tout un tas de molécules qu'on était capable de caractériser, mais mettre en évidence que c'était effectivement l'ADN qui contenait l'information importante pour l'hérédité, ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, quand on remonte, on se rend compte que c'est lié à une capacité des bactéries, une certaine capacité des bactéries, sur laquelle on reviendra un petit peu, mais c'est lié à une expérience de Frédéric Griffiths en 1928, enfin en tout cas c'est en 28 qu'il a publié ses travaux. Et alors on va essayer de voir un petit peu cette expérience. Griffiths travaillait sur une bactérie qu'on appelle Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque. C'est une bactérie qui fait une pneumonie qui infecte les patients et qui éventuellement se développe en pneumonie qui peut être très sévère. Alors en fait, il existe deux types de ces streptocoques. Il en existe beaucoup plus, mais disons que du point de vue de leur observation, comme ça, on peut voir deux types vraiment très tranchés de pneumocoques. Il y en a qui forment, quand on les met à pousser sur des petites boîtes, des colonies qu'on dit rugueuses. C'est des toutes petites colonies, là, c'est ce qu'on a sur la gauche. Et puis il y en a d'autres qui forment une grosse colonie comme ça, qu'on dit lisse. Et en fait, il y a une seule de ces formes qui est vraiment pathogène. Alors, ce qui se passe maintenant, on sait comment ça fonctionne. En fait, on sait que les bactéries qui sont sur la droite, celles qui font des grosses colonies lisses, elles sont capables de fabriquer une capsule, de fabriquer quelque chose qui les entoure, qui fait que les macrophages, donc les cellules de votre immunité, les cellules qui vous protègent des bactéries qui vous infectent, sont incapables de les avaler. Alors que celles-là, en fait, elles sont très digestes pour les macrophages.
elle ne leur pose pas vraiment de problème. Alors, Grétis a fait une expérience assez intéressante. Il s'est rendu compte que, donc, quand on mettait, comme je disais, les bactéries de type lisse, donc S pour smooth, je suis désolé, j'ai pris la slide en anglais. Donc, quand on injecte ces bactéries à une souris, la souris sent rien. Si vous prenez les cellules R, les cellules qui forment les petites colonies rugueuses, eh bien, la souris s'en porte très bien et elle s'en met sa salle. Et puis, Gatis a une idée un peu bizarre de tuer ces bactéries, hein, les bactéries virulentes, les bactéries type lisse, et les injecter à la souris, et ils se sont rendus compte que, bon, ils avaient injecté des bactéries mortes, en fait, ils les a chauffées pour les tuer, et la bactérie s'en portait la souris s'en portait très bien. Par contre, si on prenait des bactéries qui ne sont pas pathogènes et qu'on les mélangeait avec les cellules tuées à la chaleur des bactéries pathogènes, à ce moment-là, la souris s'en remet pas. Et quand on essaie d'isoler les bactéries qui se trouvent dans le sang de cette souris, ben ce qu'on trouve, c'est des bactéries de type S. C'est des bactéries qui forment ces grosses colonies. Hein. C'est des bactéries typiquement pathogènes. Alors, ça a mis un petit peu de temps à être expliqué. Ce qu'a dit Grétis, c'est qu'il existe un principe transformant, un principe qui est capable de transformer l'hérédité des bactéries, qui résiste à la chaleur. Donc il a interprété ça en disant, là j'ai que les seules bactéries vivantes là, qui pouvaient sortir de cet organisme, c'était les R, et les R ont été transformées par les débris de bactéries S que j'ai mis à l'intérieur. Donc il a dit, il y a un principe transformant qui résiste à la chaleur, qui a modifié l'hérédité de mes bactéries. Et en fait, ce phénotype, enfin, ces bactéries sont modifiées de manière stable. C'est-à-dire que vous pouvez les faire pousser pendant des générations et des générations, elles vont rester des bactéries pathogènes. Alors en fait, ça a été expliqué plus tard par quelqu'un qui s'appelle Avery, notamment, Oswald Avery. Et voilà comment il l'a expliqué. Il a montré, il a essayé d'isoler un petit peu tout ce qu'il y avait dans les bactéries mortes qui auraient pu être responsables de cette transformation. Et il a montré que c'était l'ADN. Alors, ce qui se passe, c'est que... ce qui se passe, c'est que voilà une bactérie vivante. Et voilà son chromosome, donc son ADN. Et alors à l'extérieur, quand on a tué les bactéries, on a de l'ADN libre comme ça. Ces bactéries-là, en fait, elles sont capables d'insérer, de faire rentrer de l'ADN à l'intérieur de leurs cellules. Et en fait, elles vont pouvoir prendre de l'ADN des bactéries mortes et l'insérer dans leurs cellules. Vous voyez, là, ici, on a un petit B qui a été remplacé par un grand B. Alors on appelle ça de la recombinaison dans ce cas-là. Mais le mécanisme global, on l'appelle la transformation du fait de cette observation qu'avait fait Griffith à l'époque. Donc là, on avait quand ça a été montré, quand on a été capable de montrer qu'en fait, c'était l'ADN qui faisait ça, on avait montré que c'était l'ADN qui était porteur de l'hérédité. C'était lui qui était responsable de l'hérédité chez les bactéries, et ensuite on a démontré que c'était partout comme ça. Donc là, je vous ai juste mis quelque chose qui est un peu abstrait, j'aurais
j'aurais pu éviter ça. En fait, là, c'est maintenant ce qu'on sait avoir été transféré dans ces bactéries en expérience de défis. En fait, ça, c'est les gènes, donc ils sont représentés par des flèches, mais en fait, ce qu'on représente ici, c'est une molécule d'ADN sur laquelle on a une information qui code une fonction pour fabriquer la capsule, pour fabriquer donc cette chose qui entoure la cellule et qui lui permet de ne pas se faire gober par les macrophages. Et donc c'est cette information-là qui a été transférée à l'intérieur des bactéries. Alors on peut voir que ça en fait c'est différents types de streptocoques, et en fait on peut voir que ces gènes de capsule, il y en a beaucoup, et ils sont très différents d'une souche à l'autre. Donc alors j'ai dit un mot clé, j'ai dit le mot gène. Alors, ça c'est un... Pardon.
On peut dire que ça aussi c'est partie de la biodiversité, les variations.
Oui, tout à fait, ça fait partie de la biodiversité. Alors après, il faut voir si c'est la biodiversité que vous voulez sauvegarder ou pas, mais,
oui.
Mais effectivement, ça fait partie de la biodiversité, c'est pas la... Alors en fait, c'est une bonne question. La bactérie est capable d'importer activement l'ADN, c'est-à-dire qu'elle a des fonctions qui lui permettent de prendre l'ADN en dehors de la cellule, l'ADN du milieu. Alors, y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, l'ADN, c'est un nutriment, c'est de l'énergie. Alors, je peux peut-être vous remontrer un tout petit peu la molécule. Donc, en fait, si on détaille la structure de la molécule, elle est faite d'un enchaînement de ces bases-là. Et ces bases-là, elles sont faites d'un sucre et d'une base, on dit une base azotée. Mais donc là, il y a plein d'énergie là-dedans. Et ça, c'est un nutriment important pour les bactéries. Et vous aussi, vous nourrissez de beaucoup d'ADN. Dès maintenant, vous mangez un organisme vivant, vous digérez son ADN. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les bactéries importent de l'ADN. Ensuite, elles le digèrent à l'intérieur de la cellule. Et une autre raison, c'est éventuellement pour être capable d'acquérir des nouveaux gènes, d'acquérir des nouvelles fonctions. On voit par exemple, si on parle un peu d'évolution là, que une bactérie rugueuse, une bactérie R, non pathogène, à l'intérieur de la souris, elle est perdue. Elle va se faire éliminer par les macrophages. Par contre, elle est capable d'intégrer de l'ADN de l'extérieur, elle peut éventuellement trouver une solution pour s'adapter à ce nouveau milieu qu'est le milieu interne de la souris. D'accord ? Donc il y a une pression de sélection, dont on a parlé d'évolution l'année dernière, je ne sais pas combien d'entre vous étaient là, mais la sélection naturelle va favoriser, dans des conditions comme ça, des bactéries qui sont capables de trouver une solution aux attaques du système immunitaire de la souris. Et donc, éventuellement, la capacité à intégrer les gènes des autres bactéries qui vous entourent, ça peut vous permettre de trouver des solutions. Et en l'occurrence, quand la bactérie se transforme de type R en type S, elle trouve une solution qui fait qu'elle ne va pas être éliminée par les macrophages.
Donc, alors, j'ai dit, en fait, il y a des gènes sur l'ADN.
Donc l'ADN, cette molécule porteuse de l'hérédité, elle code, donc on dit coder en fait, un terme, vous allez comprendre pourquoi, pour des gènes. Alors les gènes, ce qu'on entend par gène, c'est une partie fonctionnelle relativement autonome qui est codé par l'information qui est présente sur l'ADN. C'est pas une définition que vous trouverez dans les livres forcément comme ça, mais il me semble que c'est pratique de la présenter comme ça. La manière dont l'ADN contient une information qui va pouvoir amener à une fonction, c'est par un mécanisme qu'on appelle la traduction. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de ça, mais il faut voir que votre génome, notre génome, et le génome des bactéries, et le génome des virus, utilisent un langage qui est fait de mots de trois lettres. C'est ce qu'on appelle le code génétique. Chacune de ces lettres est interprétée par la cellule comme une information à traduire en utilisant ce code génétique. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien faire passer le message. Donc, ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur de votre génome, à l'intérieur de vos cellules, votre ADN est transcrit dans un intermédiaire qui est quasiment identique à lui-même. Et cet intermédiaire, il va être lu pour fabriquer une protéine. Cette protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés, donc des petites molécules que je vous ai représentées là. Il y en a 20 en fait. Vous utilisez 20 acides aminés, et donc chacun de ces 20 acides aminés est codé par un enchaînement de lettres. Alors vous pouvez voir que il y a plusieurs enchaînements de lettres qui sont synonymes. Par exemple, GGU, GGC, GGA et GGG, ça code le même acide aminé, qui est la glycine. Et donc, en utilisant ce code-là, la cellule est capable, à partir de votre ADN, de fabriquer des choses comme ça, qui sont en fait les véritables effecteurs, les véritables petits moteurs moléculaires de la cellule, qui sont les molécules qui vont faire les réactions à l'intérieur de vos cellules. Les réactions chimiques qui se passent à l'intérieur de vos cellules, c'est en première approximation les protéines qui les font. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas faites par des protéines, mais grosso modo, c'est ça qui fait que votre organisme fonctionne. Alors vous pouvez voir que dans ce code, il y a certains mots qui sont particulièrement intéressants. Il y a un mot qui veut dire « commence ». C'est-à-dire que sur la molécule d'ADN, vous pouvez vous promener en lisant les lettres, et puis il y a un moment où vous allez rencontrer un AUG. Cet AUG, ça veut dire il faut commencer à traduire. Il faut commencer à mettre des acides aminés en correspondance. Et puis, il y a des mots qui disent « stop », qui veulent dire « voilà, maintenant, on s'arrête ». Et maintenant, la molécule, elle a été synthétisée et elle est comme il faut pour être fonctionnelle. Alors, bon, je vous ai raconté ça, je ne sais pas trop c'est un petit peu difficile d'expliquer ça sans rentrer dans les détails, mais ça me semblait important, notamment parce que ce code génétique, là, c'est une des choses qui fait qu'on sait que tous les êtres vivants ont un ancêtre commun. Parce que ce code génétique, il est universel, c'est-à-dire que tous les organismes vivants utilisent exactement le même code. On pourrait imaginer des milliards d'autres codes, on pourrait dire, CCA, ça va coder phénylalanine. chaque organisme aurait pu inventer son propre code génétique, mais non, en fait, tous les organismes vivants utilisent exactement le même code génétique. Je vous ai parlé un peu du point de vue fonctionnel, je vais vous parler un petit peu très rapidement du point de vue comparatif. Donc je vous ai dit, la molécule d'ADN, elle a cette capacité de se reproduire à l'identique. Et ça fait que vous partagez les gènes avec vos parents. Donc par extension, vous partagez les gènes avec vos ancêtres. Et donc vous partagez des gènes avec vos cousins, avec les organismes avec lesquels vous partagez un ancêtre commun. Et donc, en fait, ce qu'on fait, nous notamment, enfin ce que moi je fais notamment dans mon laboratoire, c'est comparer les génomes, comparer les ADN d'espèces différentes. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comme ils ont changé. De regarder quelles sont les modifications qui ont été apportées à cet ADN au cours de l'évolution. Alors, dans le cours suivant, je reviendrai un peu sur la raison pour laquelle on a des différences entre espèces, parce que je vous ai dit que l'ADN, ça s'appliquait de manière fidèle. En fait, c'est pas tout à fait vrai, des fois, ça fait des erreurs. Et du coup, ces erreurs, elles sont conservées au cours de l'évolution. Et c'est ça qui fait qu'on a des différences entre les lettres de l'ADN, mais surtout c'est ça qui fait que vous êtes différents les uns des autres, et vous êtes différents des singes, des champignons, des plantes et des bactéries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a cet aspect fonctionnel, mais il y a aussi cet aspect historique qui est écrit dans l'ADN. Qui fait que quand on prend les génomes de différentes espèces, vous voyez ici par exemple que en fait ces deux séquences là, quand je regarde cette base là, elles se ressemblent bien, ici aussi elles se ressemblent bien, ici elles se ressemblent bien, par contre elles sont différentes de celles là. Et donc globalement, je vais avoir envie de dire, ces deux organismes-là, ils ont des séquences qui sont beaucoup plus proches entre elles. Et en me basant sur ce raisonnement, je vais pouvoir dire, probablement, ces deux organismes-là, s'ils se ressemblent autant au niveau de leur ADN, c'est probablement qu'ils ont un ancêtre commun qui est plus récent. C'est que leur lignée, leur ADN, se sont séparés il y a beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour reconstruire des arbres comme ça. Ça, c'est un arbre phylogénétique du vivant. Ça représente l'ensemble du vivant connu actuellement. Et vous voyez que ça montre qu'on a tous un ancêtre commun, et ça montre les liens de parenté entre nous. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. Vous avez déjà fait l'exercice l'année dernière. Vous savez où vous êtes ? Vous n'êtes pas représenté explicitement, en fait. Et ce qu'il faut, c'est admettre que vous êtes un animal. Une fois que vous avez admis que vous êtes un animal, c'est ce sur quoi il n'y a pas de discussion possible. Enfin, on peut discuter si vous voulez, mais... vous voyez que donc, l'ensemble des animaux, là, ils sont dans cette toute petite branche. Ici, on a les champignons, les fongis, c'est ce qui correspond aux champignons. Et je suis en train de chercher les plantes. Elles sont là. Les plantes vertes sont là. Ça, c'est tout un tas d'organismes que vous connaissez sans doute pas, parce que la plupart, c'est des organismes unicellulaires. Vous connaissez sans doute les ciliés quand même, la paramétrie. Et puis là, on a les bactéries et les archées, qui sont un groupe très très intéressant qu'on a découvert relativement récemment, il y a seulement une bonne trentaine d'années, et qui sont un groupe très important sur lesquels je pourrais peut-être reparler un jour, si vous, ou quand vous voulez, si vous avez des questions. Donc, voilà, ça c'était juste pour parler un peu de ces organismes.
je vais terminer assez vite.
Alors, je ne sais plus trop ce que j'avais. Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est un peu pour vous, pour essayer de vous resituer toutes ces choses dont j'ai parlé. Hein. Ça, c'est une photographie en microscopie d'une cellule carrière. Ça, typiquement, c'est comme ça que sont nombre de vos cellules. La plupart de vos cellules, elles ressemblent à ça. Enfin, elles ont des formes différentes et des caractéristiques un petit peu différentes. Mais, grosso modo, enfin, globalement, elles sont comme ça. Et à l'intérieur, il y a une structure qu'on appelle le noyau. Et ce noyau, c'est ça qui contient votre ADN. Autour, il y a une région qu'on appelle le cytoplasme. Et puis, il y a tout un tas d'autres petites choses sur lesquelles on ne va pas du tout s'attarder. Donc ça, c'est une cellule eucaryote typique. Ici, là, vous avez une cellule bactérienne. Donc, c'est à l'échelle. Donc, c'est pour vous rendre compte un petit peu de la différence qui existe entre un eucaryote et une bactérie au niveau de taille. Je ne crois pas avoir mis de photo de schéma d'une bactérie, de l'intérieur d'une bactérie, mais ce qu'on va noter en particulier, c'est que dans les bactéries, il n'y a pas de noyau. Donc, l'ADN est là, mais il se balade dans la cellule de manière libre. Il n'est pas du tout cloisonné à l'intérieur d'une structure comme ça. Alors, ici, je vous ai mis, pour essayer de resituer encore un petit peu d'autres choses dont vous avez entendu parler forcément, une pauvre cellule bactérienne qui est en train de se faire infecter par ce qu'on appelle des bactériophages. Les bactériophages, c'est rien d'autre que des virus qui ont la spécialité d'attaquer les bactéries. Et donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée d'échelle de ce que c'est qu'un virus par rapport à une cellule bactérienne et de ce que c'est qu'un virus par rapport à une cellule eucaryote. Donc, on va avoir des virus de taille relativement variable, mais globalement, ça va toujours être minuscule par rapport aux cellules qui sont capables de l'infecter. Là, vous avez une photo un peu plus grossie de ces petits virus. Alors, vous voyez, il y a des petits vaisseaux spatiaux avec. C'est vraiment très joli en fait. Ça fait des structures. Des structures très jolies. Et alors, eux aussi possèdent un ADN en général. Alors, soit un ADN, soit une molécule très proche de l'ADN. Et vous voyez ici qu'ils sont en train de l'injecter. Enfin, ceux-là, ils sont en train d'injecter leur ADN à l'intérieur de la cellule qu'ils sont en train d'infecter. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils viennent se placer sur la cellule, ils s'accrochent, et hop, ils envoient leur ADN. Ils injectent leur ADN à l'intérieur de la cellule, et cet ADN, c'est ça qui va faire que la cellule va être malade.
Ça va être infectée. On verra ça dans une leçon un petit peu plus tard.
Alors, là, ce que je vous présente ici, c'est quelque chose qui correspond à la taille des génomes. On a parlé un petit peu de la taille des génomes tout à l'heure. Je vous ai dit que votre génome était assez grand, qu'il était à peu près 2 mètres de long. Bon, ça fait 3 milliards de nucléotides, 3,3 milliards de nucléotides. En fait, on peut comparer les génomes de tout un tas d'espèces. C'est une chose assez intéressante à faire. Donc ici, on a notre bon vieux Darwin. Mais vous voyez qu'il n'est pas du tout dans les plus grands génomes. Alors, il faut faire attention là, avec l'échelle est logarithmique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on avance d'une unité, on multiplie par 10. C'est pas qu'on ajoute une unité, c'est qu'on multiplie par 10. Donc ça veut dire que le génome de l'homme est à peu près 10 fois plus petit que le génome de la fougère. D'accord. Et ici, là, on a un autre organisme qui est parmi les champions en termes de taille du génome, c'est une amibe. présenté là. Donc, c'est un des plus gros génomes qu'on connaisse. Donc désolé, c'est pas vous qui avez le plus gros génome de l'histoire de la planète. Alors, à l'autre extrémité, on a des eucaryotes qui ont des très petits génomes, des génomes qui sont comparables à des génomes de bactéries. Les bactéries, en général, elles ont des petits génomes. Elles ont des génomes relativement petits comparés aux génomes de eucaryotes, mais ces distributions se recouvrent complètement. Ça, c'est les archées, donc le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un groupe très, très différent des bactéries, mais disons qui est globalement, pour ce qu'on peut en juger vu de l'extérieur sans aller voir les caractéristiques moléculaires, ressemble beaucoup à des bactéries. C'est des organismes qui sont microscopiques et qui ressemblent beaucoup à des bactéries morphologiquement. Et puis ici, vous avez les tailles des génomes de virus. Donc, on connaît depuis peu des génomes de virus qui ont des tailles qui rivalisent avec les organismes qu'ils infectent. Mais en fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc c'est très rare. Voilà, la distribution des tailles de génomes de virus, c'était dans cette zone-là. Donc les virus, en général, ça a des très très petits génomes comparé aux autres organismes. Donc ça, c'est un bout de génome. Ça, c'est ce sur quoi on travaille. Et donc, le but du jeu, c'est de réussir à faire du sens avec ça. C'est pas complètement évident. Mais ça peut se faire. Donc voilà, par exemple, une manière de représenter cette séquence que je viens de vous montrer, qui était juste un tout petit morceau de séquence, en fait. Là c'est une séquence qui est beaucoup plus longue. Et donc, on représente ça comme ça. Les bactéries, en général, ont un génome circulaire. Donc, la molécule d'ADN est complètement circulaire, elle est fermée. Et ici, vous voyez, à chaque petit trait de couleur, là, on a un gène différent. Donc, typiquement, on a quelques centaines ou milliers de gènes à l'intérieur d'un génome bactérien, souvent plusieurs milliers. Donc ça, on reviendra un petit peu là-dessus la semaine prochaine. J'essaierai de parler un petit peu plus de ça. Et ça correspond à ça, en fait. Ça, c'est une manière de voir la manière dont interagissent les gènes. Ça, c'est un réseau d'interaction à l'intérieur d'une cellule. Donc, chacun des petits points, ça correspond à une réaction qui est catalysée par un gène, par le produit d'un gène. C'est juste pour vous montrer, c'est juste pour vous faire peur. Alors, des génomes, on commence à en avoir pas mal, on commence à bien savoir les séquencer, on commence à en avoir pas mal. Alors là, je vous ai représenté les trois règnes, enfin les trois domaines, donc les archées, les bactéries et les eucaryotes, dont vous êtes. On a typiquement plusieurs centaines. Alors on a 1214, là, le jour où j'ai fait ça, on avait 1214 génomes complètement séquencés, donc la séquence complète de 1214 organismes. Ça change tous les jours, probablement, j'ai fait ça il y a quelques heures, mais probablement ça a changé déjà. Et il y a 6910 projets qui sont répertoriés en cours sur le site où je suis allé voir, mais probablement il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas publics. Les animaux, ça représente une partie de ce génome-là. On a 235 génomes en cours de séquençage qui sont des génomes de chordées, donc des génomes proches des vertébrés, enfin, des vertébrés, des organismes à vertèbres, donc des choses qui sont relativement proches de l'homme. Alors, juste, je voulais terminer en donnant une toute petite histoire du génome humain. Alors, vous savez que en l'an 2000, on a annoncé qu'on avait séquencé le génome humain. C'était pas tout à fait vrai, c'était un premier brouillon. En 2003, en fait, on a fini complètement de séquencer le génome humain. Alors, c'est pas non plus tout à fait vrai qu'on a séquencé totalement le génome humain. Il y a en fait des régions dans le génome humain qui sont des régions qui sont très très réfractaires au séquençage. Et pour ça, il va sans doute nous falloir des technologies un petit peu différentes pour séquencer ces régions, mais globalement, ça ne représente pas une grosse partie du génome. Et on soupçonne que fonctionnellement, ce n'est pas non plus des régions qui sont absolument cruciales, mais on s'y attaque quand même. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de laisser ça de côté. En 1990, on avait pris la décision de séquencer le génome. C'était un consortium international. Et donc, ça a pris 13 ans, avec un effort énorme au niveau international, pour séquencer le génome humain. Ça a coûté environ 3 milliards de dollars, un petit peu moins. Le bilan de ça, c'est notamment une petite déception dans notre orgueil de mammifères en haut de l'échelle. C'est qu'on n'avait que 24 000 gènes, qui à peine plus que. C'est pareil que la souris en fait, qui à peine plus que la mouche. C'est peut-être deux fois plus qu'un ver que le nématode qui avait été séquencé. Donc c'était un peu décevant en fait. Les estimations avant le séquençage étaient de l'ordre de 100 000 gènes. Et donc ça a mis une petite pichenette à l'orgueil d'Homo sapiens. Donc je vous ai dit, ça a coûté 3 milliards de dollars et ça a duré 13 ans. Mais en fait, le 4 septembre 2007 a été séquencé le premier. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire. On a séquencé le génome humain. On a dit qu'on avait séquencé le génome humain. Mais bon, on a vu. Enfin, vous êtes tous différents. Vous semblez pas tellement. Moi, je ne vous ressemble pas. On a tous des différences. Donc, de qui on a séquencé le génome? Manifestement, on n'a pas les mêmes génomes. Chacun de nous. De qui on a séquencé le génome? Le premier génome humain qu'on a séquencé, c'est en fait un génome, je dirais, composite d'un certain nombre d'individus qui ont été tirés au sort. Et donc, ce n'était pas le génome d'une personne, c'était un génome, c'est une jolie idée en fait, d'essayer de représenter un petit peu la diversité humaine dans ce génome. Mais en fait, on ne savait pas si c'était un génome qui fonctionnait. C'est-à-dire que cette séquence, on ne sait pas si elle a jamais existé à l'intérieur d'un organisme, parce que c'est le génome de plein d'individus mélangés. Le 4 septembre 2007, il y a ce monsieur-là, qui est en fait un grand nom, enfin, il faut l'admettre, de la génomique humaine, qui s'appelle Greg Venter, qui a séquencé son génome lui-même. En fait, il est à la tête d'une entreprise de séquençage qui s'appelait Celera et qui a changé de nom. En fait, qui fait beaucoup d'argent avec ça et qui est vraiment quelqu'un dont l'ego est très imposant. Et donc, déjà, il avait séquencé son chien. Le génome du chien qui a été séquencé, c'était le génome de son poodle, comment on dit, son caniche, voilà. Et donc, il a séquencé son génome. Ça, il l'a fait en 2007. Un tout petit peu après, il y a le génome du jeune homme que je vous ai montré tout à l'heure, hein, James Watson, qui a été séquencé aussi. Et puis, la semaine dernière, je crois... le génome de Desmond Tutu qui a été séquencé.
plus un certain nombre d'inconnus, enfin de gens d'anonymes, disons, dont le génome a été séquencé. En fait, aujourd'hui, le séquençage d'un génome humain, avec les nouvelles techniques de séquençage, ça prend 2 semaines, comparé aux 13 ans que ça a pris il y a quelques années, et ça coûte environ 5000 dollars, comparé aux 3 milliards. Donc en fait, on est en train de rentrer dans l'ère de la génomique personnelle, où bientôt, ce sera possible pour vous de faire séquencer votre génome. Et on commence à avoir accès à la diversité de l'espèce humaine en termes de génome. Donc on est bien loin de cette vision-là du génome humain. Et voilà, et je vais m'arrêter là, et la semaine prochaine, là je continuerai sur le sujet, on reprend un peu plus dans certains détails que j'ai posés ici. Et si vous avez des questions, je peux commencer à y répondre aujourd'hui. Merci.